Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans la toute première émission de Union et Désunion. Ici, pas de jargon, pas de discours ennuyeux, on parle d'Europe, comme on en parle autour d'un café, simplement et sans détour. Parce que l'Europe, ce n'est pas qu'un drapeau et des bureaux à Bruxelles, c'est surtout et aussi ce qui façonne nos vies de tous les jours. Je suis Nathan Dodd de Fintrostweg et avec Ulysse Gounel, on va présenter cette nouvelle émission mensuelle, une émission pour casser les clichés, décrypter l'actu et surtout remettre l'Europe à hauteur des citoyens. Bonjour Ulysse.
Bonjour Nathan. Oui, comme tu l'as dit, le but de cette émission, c'est de parler d'Europe. Parce que souvent, elle paraît très loin. On parle de Bruxelles, c'est à des kilomètres, des centaines de kilomètres même. Mais nous sommes convaincus que l'Europe, c'est quelque chose qui agit sur notre quotidien. Et pour ça, il faut la comprendre. Ce n'est pas que des discours politiques, c'est une réalité de tous les jours, comme tu l'as très bien dit. Mais ce qu'on veut aussi souligner, c'est que l'Europe telle qu'elle est actuellement n'est pas parfaite. En effet, c'est certes une union, mais elle est pleine de désunions. Vous voyez d'où vient le titre. Le nationalisme, notamment, est une des sources de ces désunions entre les pays qui composent notre continent. Pour parler de ça, nous allons vous faire une émission de 30 minutes tous les mois, avec parfois des invités et aussi des personnes mortes, des personnalités européenne que nous allons vous présenter. Nous allons vous parler d'histoire, nous allons vous parler d'actualité, mais aussi de fake news. Nous allons démonter les fausses idées sur l'Europe, à notre échelle évidemment. Et pour cela, donc, nous sommes à deux en discussion, Nathan et moi, Ulysse. Et pour savoir qui vous parle d'Europe, nous allons tout d'abord nous présenter.
Effectivement, c'est quand même mieux qu'on se présente pour qu'on sache de quoi on parle. Donc pour commencer, moi je vais présenter Ulysse. Alors tout d'abord, Ulysse, tu as 20 ans, tu es franco-suisse, tu es étudiant en administration publique à Paris, tu es engagé politiquement et associativement pour l'Europe en général, et tu es aussi le cofondateur d'un groupe de jeunes protestants en Alsace-Moselle. Est-ce que j'oublie des choses ou je pense que c'est ça, non ?
Je pense que c'est à peu près tout. Et puis,
je
vais enchaîner avec ta présentation. Donc, tu as 21 ans, tu es un pur produit de l'Europe, français, néerlandais et suisse, d'Alsace, un beau mélange, mais tu ne vis dans aucun de ces trois pays puisque tu es actuellement à Bruxelles, à l'Université Libre, étudiant en sciences politiques. Tu es engagé dans plusieurs associations étudiantes et politiques, et dans tes nombreuses activités, tu as aidé à fonder l'association Pan-Europe en Belgique et au Benelux. Peut-être que tu peux nous dire deux mots déjà sur ce qu'est cette association.
Ouais, il n'y a pas de souci. En gros, Pan-Europe, c'est une association pro-européenne. C'est la plus vieille association qui existe en Europe. Pourquoi ? Parce qu'elle a été fondée en 1926 par un certain Keller Guy. Bon, vous ne connaissez sûrement pas, mais c'est un des pères de l'Europe et on en parlera sûrement dans une émission future. Et cette association-là existe dans beaucoup de pays. Elle existait il y a longtemps en Belgique et là, on est en train de la refonder avec plusieurs autres personnes. Et c'est une sorte d'association qui veut influencer les sphères publiques pour parler d'Europe.
Oui, et effectivement, il faut qu'on le dise, un peu un disclaimer en très bon français, nous n'allons pas être complètement neutres. Nous sommes des Européens convaincus, nous sommes les deux dans des associations et voire des partis pro-européens, et nous l'assumons. Ce que nous voulons, c'est pas de faire un message qui soit partisan, mais un message qui soit pro-européen de manière affirmée et de manière surtout raisonnée.
Oui, la seule différence, c'est que nous allons baser notre position sur des faits, sur des intervenants, sur de la recherche, et qu'on cherche surtout à discuter d'Europe. Donc on arrive certes avec nos propres idées, ce qui est tout à fait normal, mais on veut surtout parler de tout.
Ouais, et donc c'est la première émission, donc on s'est dit, quoi de mieux pour commencer que de présenter ce qu'on veut faire exactement ? On vous a donné des grandes lignes, mais quel est notre projet avec cette émission que vous retrouverez donc chaque mois pendant 30 minutes? Peut-être Nathan, tu peux commencer à l'introduire.
Oui, bien entendu. Alors, de toute façon, comme je l'ai dit un peu avant, on aimerait bien rendre l'Union européenne et l'Europe tout simplement vivante. C'est-à-dire, on sort un peu de ce truc bruxellois, de technique, de bureaucratique, de tous ces trucs classiques qu'on entend d'habitude, et on veut avoir du vivant, c'est-à-dire parler des personnalités, de l'histoire, de l'actualité, de debunker des fake news, etc., etc. Donc vraiment parler un peu de tout et de façon très normale, comme on le fait depuis le début là. Et c'est-à-dire aussi donc faire en sorte que l'Union européenne soit accessible, parce que ça impacte chacune de nos vies, et donc il faut quand même la comprendre, ce qui est assez logique normalement. Utiliser naturellement un vocabulaire simple et compréhensible, et donc faire en sorte qu'elle devienne concrète. Donc parler de l'impact de l'Union européenne sur la vie de tous les jours, de notre vie, de votre vie, en France, hors de France, de parler des petites et des grandes histoires de l'Europe, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées pour créer l'Europe, et surtout faire en sorte que l'Union européenne soit plus proche de vous, parce que, comme on l'a dit avant, elle est à Bruxelles, elle est loin, c'est les dirigeants, les chefs d'État qui en parlent, etc., etc. Mais ce qui se passe là-bas, ça nous impacte beaucoup, et c'est pour ça qu'il faut en parler.
Oui, et il ne faut pas oublier qu'elle n'est pas qu'à Bruxelles, elle est aussi à Luxembourg et surtout à Strasbourg en France. Elle n'est pas si loin que ça. Et l'Union européenne, c'est aussi effectivement des personnes. Nous avons essayé d'en inviter autant que possible pour nous parler d'Europe, de leurs différents mouvements européens, peut-être aussi des partis européens, si possible aussi des personnalités qui sont en fonction. Vous parliez de personnes qui ont façonné l'Europe, les pères et les mères de l'Europe. Et chaque mois, nous allons aussi essayer donc de démonter une idée reçue sur l'Europe et de vous parler d'une actualité du temps long. Évidemment, nous n'allons pas rentrer dans les détails de la presse People ou que sais-je. Nous allons essayer de comprendre quelles sont les grandes dynamiques qui forment notre actualité récente. Et je pense, je pense qu'on va tout de suite pouvoir rentrer dans le sujet. Avec Nathan qui va nous parler d'élections.
Exactement, et nous n'allons pas essayer de nous baser sur ce qui se passe avec Rihanna, mais nous allons essayer de débunker ce qui s'est passé récemment. C'est-à-dire qu'on va débunker une idée reçue qui est tenace. Bruxelles qui manipule les élections, donc en gros l'Union européenne qui tire les ficelles. C'est un refrain qu'on entend partout, on l'entend dans la bouche de certains gouvernements illibéraux, des partis eurosceptiques, sur les réseaux, et surtout récemment dans la propagande russe. Dernier exemple, c'était le 13 août dernier, les services secrets russes ont carrément accusé la Commission européenne de préparer un changement de régime en Hongrie. Ils veulent faire, en gros, tomber Viktor Orban. Selon eux, Bruxelles aurait déployé des moyens énormes pour soutenir son opposant, Peter Magyar. Sauf que, premier problème, aucune preuve, rien. Les accusations qui ont été juste reprises en boucle par des médias d'État russes et sur les réseaux. En réalité, je pense que c'est assez clair, on est face à un cas classique de désinformation. Parce que la vraie ingérence, elle vient d'ailleurs. En Hongrie, des journalistes indépendants le disent et le montrent. C'est Moscou qui s'immisce dans le jeu politique hongrois. En gros, Moscou va soutenir Orban, qui est son allié le plus fidèle au sein de l'Europe, et essaye de jeter un doute pour les législatives de 2026, que Orban risque de perdre selon les sondages. Donc en gros, Moscou essaie de faire en sorte que son petit poulain Orban reste le maître de la Hongrie. Et ce n'est pas forcément un cas isolé, parce qu'il faut qu'on regarde par exemple la Roumanie, en novembre dernier, je pense que vous en avez tous entendu parler. La Cour constitutionnelle roumaine a annulé le premier tour de la présidentielle. Bon, ça a fait beaucoup de débats, mais pourquoi ? Parce qu'un candidat totalement inconnu, un certain Calin Georgescu, est passé de moins de 1% à 22% en 2 semaines. C'est énorme, ça n'arrive très rarement. Et ça, c'est grâce à une campagne massive et artificielle sur TikTok. En gros, sur les réseaux, les services secrets roumains ont découvert 25 000 faux comptes qui ont été coordonnés depuis Telegram et en gros, beaucoup diffusaient déjà des messages pro-russes et 2 semaines avant les élections, tout d'un coup, ils ont tous été pro-Georgescu. Le résultat, une manipulation électorale à grande échelle et naturellement, le scrutin a été annulé. Alors, ce candidat et ses soutiens ont crié au coup d'État et accusent, suspense, Bruxelles. Alors, on va être très clair, est-ce que Bruxelles manipule les résultats, comme le Kremlin ? Pas du tout. La Commission européenne n'a même pas ce pouvoir. Et parmi les commissaires qui forment la Commission, il y a des Hongrois et des Italiens qui sont proches d'Orban et qui viennent même de son propre parti. Alors, ce que fait la Commission, en revanche, c'est qu'elle applique les traités. Elle enquête sur les atteintes à l'état de droit et surveille les plateformes comme TikTok et les autres réseaux sociaux. Et cela grâce à une nouvelle loi, qui est une loi sur les services numériques et dont le but est de limiter la désinformation. Donc, quand vous entendez que Bruxelles truque les élections, il faut retenir quelque chose d'assez simple. Alors, ce n'est pas les institutions européennes qui manipulent nos votes, mais des campagnes de désinformation coordonnées qui sont souvent soutenues et viennent de la Russie, qui cherche à, en gros, affaiblir notre unité de l'intérieur. Alors, oui, on peut critiquer l'Europe sur beaucoup de choses, comme sa bureaucratie, son éloignement, sa lenteur, mais en tout cas, une chose est sûre et certaine, elles ne volent pas du tout nos élections. Elles tentent au contraire de les protéger. Qu'est-ce que t'en penses, Ulysse?
Déjà, merci pour cette belle introduction. Et effectivement, c'est un sujet très important puisque les accusations vers l'Europe sont nombreuses et c'est des accusations qui sont en fait simplistes. Accuser Bruxelles, c'est une manière d'accuser le système. C'est donc l'outil parfait pour les mouvements qu'on dit populistes qui essayent de créer une opposition entre un peuple qui serait parfaitement pur et une élite qui serait parfaitement corrompue. Mais ce n'est effectivement pas la réalité et la désinformation qui entoure les élections est extrêmement massive. On le voit à chaque élection, même en France, il y a des vagues de désinformation assez importantes. Ce qu'il faut.
Oui, c'est ça. Et ça peut arriver qu'il y a des candidats qui sortent nulle part et qui ont beaucoup de résultats, mais 2 semaines, ça fait quand même un peu beaucoup. Je prends l'exemple, par exemple, de Macron, qui, lors de sa première élection en 2017, est sorti de nulle part. C'était quelqu'un qui était inconnu avant, mais ça lui a quand même pris plusieurs mois pour gagner la présidentielle. Et cela par d'autres moyens que par les réseaux sociaux.
Oui, et d'ailleurs, l'influence ne vient pas que de Russie, il y a aussi des personnes en France qui assument ce projet de vouloir faire monter des idées contre l'Union européenne,
Tu
notamment des
parles
idées
de...
populistes, des milliardaires qui financent ouvertement les élections. Il y a des enquêtes qui sont en cours à l'Assemblée nationale actuellement, notamment Pierre-Édouard Sterrin, pour voir s'il n'a pas effectivement mis de l'argent dans les élections pour faire avancer le camp qu'il considère comme étant le meilleur de manière parfaitement illégale.
Oui, mais c'est ça se voit un peu partout. En Roumanie, par exemple, là, je reprends l'exemple roumain. Georgescu avait un soutien qui était un industriel d'une ville roumaine qui était dans la tech et qui, un peu à la façon de Elon Musk aux États-Unis, a fourni 1 million d'euros dans la campagne de Georgescu, ce qui pour la Roumanie est énorme. Et en gros, ce qu'il faisait, c'est qu'il allait voir des gens et qu'il proposait aussi de l'argent pour que les gens repostent et soutiennent Georgescu. Donc en gros, il achetait globalement des voix et du soutien sur les réseaux, hein. C'était ce qui est tout à fait illégal et ce qui est assez honteux.
Oui, et d'ailleurs, pour revenir sur la Russie, certains spécialistes de ce qui s'appelle donc l'information, la guerre de l'information, affirment qu'en fait, on est déjà en guerre avec eux. Alors, évidemment, je ne dis pas ça pour être alarmiste ou pour pousser à des discours militaristes. L'idée de dire que nous sommes déjà en guerre avec la Russie, c'est de reconnaître qu'il y a une volonté d'influence et de déstabilisation de l'Union européenne par le régime de Moscou, par le Kremlin, par Poutine, et que ça a lieu sur plusieurs plans. Dans les concepts cyber, on distingue plusieurs couches sur les attaques. Il y a la couche physique, c'est quand, par exemple, la Russie va faire des attaques sur des équipements, par exemple, de production d'électricité. Il y a eu ça, au Danemark il y a quelques années. Il y a ensuite la couche logique, c'est quand ils attaquent les logiciels, par exemple, comme un virus qui va transformer la manière de fonctionner de ces logiciels. Et la couche qui est la plus pernicieuse et la plus utilisée, et pas que par la Russie, aussi par la Chine en partie, c'est la couche psychique. C'est quand ils vont essayer d'agir directement sur l'intellect des gens, sur leur manière de penser, pour mettre en avant le discours qui leur est le plus favorable.
Oui, exactement. Et ça, c'est quelque chose qu'ils font principalement pour diviser l'Europe. C'est-à-dire que leur projet et d'éviter que l'Europe devienne réellement puissante. Parce que actuellement, l'Europe est encore assez petite, elle est divisée dans des pays qui, certes, sont assez puissants comme la France, mais qui ne peuvent pas faire face à quelque chose comme la Chine. Et en gros, si on les laisse faire, si on ne gère pas ces réseaux de désinformation, si on ne contre-attaque pas, si on n'est pas conscient de ça, la seule chose qui va se passer, c'est que des alliés de Moscou et de la Chine vont arriver au pouvoir, vont faire en sorte que l'Europe devienne moins puissante, moins unie, et en cela, en gros, vont laisser des ouvertures pour que, par exemple, la Chine rachète les ports européens, investisse en Europe pour voler nos entreprises, et faire en sorte que nous devenons en quelque sorte des esclaves des puissances extérieures.
Ouais, et d'ailleurs, tu introduis très bien le sujet que j'ai choisi pour cette première chronique sur l'actualité, puisque je vais parler des relations entre l'Union européenne et la Chine en se posant une question qui est d'apparence très simple, mais qui est au fond fondamentale. Est-ce que l'Union européenne est réellement une union politique? Alors évidemment, les arguments abondent pour dire que oui, vu le nombre d'institutions politiques, de décisions politiques, d'arbitrages politiques, il paraît absurde d'affirmer le contraire. Et pourtant, est-ce qu'elle se comporte vraiment comme une union politique le devrait? Récemment, le 24 juillet dernier, il y a eu un grand sommet à Pékin entre la Chine et l'Union européenne. Et comme le note Le Monde, il a viré au dialogue de sourds. En effet, politiquement comme économiquement, la Chine a réussi à retourner la relation qu'elle avait initialement avec l'Europe. L'Union européenne voyait la Chine comme un marché intéressant pour la vente de ses voitures. Maintenant, c'est nous qui sommes un simple marché pour la Chine, qui tisse ses nouvelles routes de la soie et achète des ports européens comme tu le mentionnais. L'Union européenne voyait la Chine comme une force pour pousser vers la transition énergétique. Maintenant, la Chine est bien en avance par rapport à nous. Elle est le leader mondial sur les batteries de voitures électriques et cherche à manger le marché européen. Et la discussion sur le sujet avec l'Europe est très compliquée. L'Union européenne voyait la Chine comme un levier d'action contre la Russie pour raccourcir la guerre en Ukraine. Mais maintenant, Vladimir Poutine est reçu avec les honneurs à Pékin, le président chinois Xi Jinping va régulièrement à Moscou célébrer leur amitié. Mais à l'inverse, la visite des leaders européens, elle a été raccourcie et les divergences étaient nombreuses sur tous les sujets avec une discussion donc qui a été très compliquée. Est-ce qu'une union politique se comporterait réellement ainsi? Est-ce qu'elle se laisserait dominer sans broncher, comme on le voit également avec les États-Unis? Est-ce qu'elle accepterait de rentrer dans ces relations de vassalisation heureuse, terme popularisé par la revue Le Grand Continent? En l'état, l'Union européenne se comporte comme un marché de consommateurs qui n'ont une voie unique que pour faire venir plus de produits. Et ils se désunissent dès qu'une question politique approche. Et cela doit changer, car dans ce monde de prédateurs, l'Union peut faire la force. Mais pour cela, il faut que l'Europe dépasse les querelles nationalistes, qui n'ont pour seul résultat la soumission à d'autres puissances. Comme le rappelait Paul-Henri Spaak, l'un des pères de l'Europe, il n'y a que deux types d'États en Europe, les petits et ceux qui ne savent pas encore qu'ils le sont. Alors je crois bien que l'Union est nécessaire.
Oui, bah, ça c'est globalement effectivement l'idée qui est là. C'est-à-dire que là, les deux grands points faibles de l'Europe actuellement, c'est ce que tu as dit, c'est-à-dire que ce n'est pas réellement une union politique, c'est une union qui essaie d'être politique mais qui n'y arrive pas. Et surtout, pourquoi elle n'y arrive pas? C'est non seulement à cause des États, mais aussi parce qu'elle n'arrive pas à se lier avec les citoyens européens, ses propres citoyens. Bon, je veux dire, Ulysse et moi, c'est un peu différent, puisqu'on est un peu baigné dans cette culture-là. Mais beaucoup de Français, beaucoup d'Allemands, beaucoup d'Italiens, ils n'ont pas de lien avec l'Europe. Ils n'arrivent pas à se sentir européens. Ils voient juste ça comme une organisation internationale parmi d'autres. Ou pire, ils voient ça comme une sorte de perversion qui vole leur argent et qui motive leur vote contre elles. Et ça, la seule chose que ça fait, c'est que ça crée plus de divisions, ça nous affaiblit encore, et ça, dans une sorte de boucle sans fin. Et ce qui est assez intéressant à voir, surtout vis-à-vis de cette désunion politique, c'est que ça dépend énormément de chaque pays et de leur culture. Parce que quand on réfléchit au début de tout ce qui était intégration européenne, la France était un grand soutien de l'Europe. Elle a insufflé beaucoup de ses traditions administratives, je pense notamment, beaucoup d'impulsions dans tout ce qui est Europe. Et puis, l'Allemagne a un peu pris le pas, et les pays nordiques. Pourquoi? Parce que la France s'est de nouveau cloîtrée dans une espèce de nationalisme, je pense à partir de Mitterrand, où c'était l'idée d'utiliser l'Europe comme une sorte d'échappatoire. Si quelque chose allait mal en interne, on le rejetait sur l'Europe. Là, pour exemple, je prends Mitterrand, il y avait cette idée de réforme de la rigueur. Il a justifié pourquoi? Parce que c'était l'Europe. Donc après, moi, ce n'est que mon humble avis, mais le fait que l'Europe reste plutôt quelque chose sur lequel on peut rejeter la faute et sinon être dans un discours assez conformiste, ça fait grande chose, enfin des grands problèmes dans cette union politique.
Oui, d'ailleurs, j'ai envie de dire ça remonte peut-être à avant Mitterrand, puisqu'il y
Ah,
avait,
c'est vrai,
il y
c'est
a eu
vrai.
toutes ces crises précédemment, déjà sous Pompidou, sous De Gaulle, où l'Europe était vue comme en fait un bouc émissaire, puisque elle avait des volontés qui lui étaient propres. C'est bien ça le problème. Je pense dans la conception initiale de l'Europe par la France, c'était quelque chose qui devait obéir à la volonté seule de la France. Et peut-être que dans les réflexions qui ont mené au projet européen, il n'y a pas eu assez de débat sur ce que ça voulait dire d'être une union. Une union, c'est savoir dire oui ensemble, mais savoir aussi avoir des désaccords et une voix qui est plus forte que l'autre. Si la France n'est pas d'accord avec une décision qui est votée par tous les autres, la décision qui est votée par tous les autres doit entrer en vigueur. De même qu'à l'Assemblée nationale, on ne va pas rechercher l'unanimité de tous les députés pour faire passer une loi. Ça serait une usine à gaz. Pourtant, on a voulu faire la même chose au niveau de l'Union européenne, ce qui est, je pense, assez absurde. Il a fallu attendre des années, j'ai envie de dire des décennies, pour que ce système de l'unanimité soit enlevé et qu'on passe à une majorité simple ou qualifiée selon les sujets dans le Conseil qui réunit les ministres de l'Union européenne et qui doit prendre des décisions extrêmement stratégiques.
Oui, c'est ça, c'est ça. Et surtout, sur cette unanimité, sur les sujets les plus importants, c'est-à-dire les sujets qui ne sont pas forcément dans les compétences initiales de l'Union européenne, il y a toujours l'unanimité. Donc, par exemple, là, aujourd'hui, on parle beaucoup de défense, etc., etc. Bah, il suffit qu'on en parlait avant que M. Orban, il se dise, j'ai pas envie, il met son veto et la défense ne passera pas. Donc c'est l'Union européenne est actuellement bloquée dans cette entre-deux, entre organisation internationale et union politique. Et ce qui est assez intéressant, c'est notamment le cas allemand. Pourquoi l'Allemagne a réussi un peu à avoir une place importante dans tout ce qui est décision dans l'Union européenne? C'est parce qu'en fait, elle a donné beaucoup de sa souveraineté à l'Union européenne. C'est-à-dire qu'elle a accepté sans problème que l'Union prenne le pas sur tout ce qui est commercial, sur tout ce qui est industrie au niveau international. L'Allemagne et les entreprises allemandes ne posent pas beaucoup de problèmes sur ça. Et ce qui, en échange, lui a donné une plus grande place. Donc, c'est peut-être une question de est-ce que la France, en faisant le choix de sa souveraineté forte et claire, en fait, s'est juste tiré une balle dans le pied en s'isolant en Europe. Et maintenant, on est en train de pleurer que, ah là là, on n'a pas assez de puissance alors qu'on est un des pays avec le plus de députés européens. Là encore, ce que je rajoute aussi, c'est que c'est une petite pique lancée à nos très chers amis populistes et anti-européens, c'est qu'ils se plaignent souvent du manque de démocratie de l'Union européenne, de tous ces problèmes-là. Alors moi, je leur propose quelque chose de très très simple, et je pense qu'il est très important, c'est tout simplement qu'ils soutiennent une réforme des traités qui donne plus de pouvoir au Parlement européen. Et là, ça réglerait nos deux problèmes. L'Union européenne deviendrait plus démocratique et en plus, elle deviendrait plus politique. Ça serait magnifique. Moi, je pense que ça serait magnifique. T'en penses quoi, Elise?
Écoute, moi je serais totalement d'accord, hein. Et le Parlement européen, c'est vraiment ce qui doit devenir le cœur démocratique de l'Union européenne. Et effectivement, il n'a pas assez de pouvoir. C'est quand même, il faut le dire, le seul Parlement qui n'a pas le droit d'initiative législative. La définition même d'un Parlement, c'est qu'il fait les lois. Et pourtant, le Parlement européen ne peut pas proposer les sujets sur lesquels il veut débattre. À part quelques propositions de résolution, tous les textes doivent être initiés par la Commission européenne. C'est un manque démocratique qui doit être corrigé. Et effectivement, je pense qu'il n'y a pas que les pro-européens qui pourraient y adhérer, puisque ça serait rajouter de la démocratie à l'Europe. Et j'aimerais revenir rapidement sur ce que tu as dit avant, qui est pour moi très important, c'est que donner de la souveraineté à l'Europe, ce n'est pas la perdre, c'est justement la convertir en une souveraineté plus forte. Je reviens à cette citation de Paul-Henri Spaak, que j'aime beaucoup, vous l'entendrez peut-être un certain nombre de fois dans cette émission. Il n'y a que deux types d'États en Europe, les petits et ceux qui ne savent pas encore qu'ils le sont. Actuellement, si on regarde la géopolitique mondiale, il est impossible pour un pays comme la France, même qui est un des plus grands en Europe et en superficie est le plus grand en Europe, mais des pays aussi comme la Slovénie, par exemple, la Lettonie ou autres, de peser dans le débat public. Et déjà, en tant qu'Union, on a du mal à peser dans ce débat géopolitique. Pourquoi ? Parce qu'on est désunis. Alors que si on avait cette union politique totale, complète, on arriverait à avoir une voix forte. Parce que l'Union européenne, c'est 500 millions de citoyens. C'est un PIB plus important que la Chine depuis il y a quelques semaines. Donc, il y a cette capacité, c'est simplement qu'on ne prend pas l'opportunité de l'avoir.
Oui, c'est ça, je suis tout à fait d'accord. Et effectivement, on parle par exemple, on parle beaucoup de la Chine. Bah, un des calculs assez simples, c'est la Chine, c'est 1,5 milliard, je crois, de citoyens qui ont des salaires qui sont beaucoup plus bas, qui n'ont pas beaucoup moins de tout ce qui est sécurité sociale, etc., etc. Et donc, on essaye de se dire de façon rationnelle, est-ce que la France pourrait, avec ses 70 millions d'habitants et avec tout le système de sécurité sociale, qui est très bien d'ailleurs, faire face à une Chine comme ça au niveau de la compétition internationale? La réponse, c'est absolument pas. C'est impossible. Et d'autant plus que la Chine crée ses alliances avec la Russie, les BRICS, etc., etc. Donc, c'est vraiment ça qui est important. Et je tenais rapidement à finir sur une chose, c'est que l'Europe actuellement, elle a réellement un choix. Mais ce choix-là, comme tu dis, ce n'est pas non plus donner sa souveraineté, c'est la transférer, mais aussi se dire que l'Europe, elle est là pour nous rendre plus forts, tous, et pas pour nous prendre notre culture, pour nous mettre en tant qu'esclaves d'un marché, etc., etc. Non, c'est pour faire en sorte que nous, on puisse mieux vivre, tout simplement, en tant que citoyens, mais aussi à faire en sorte qu'à l'international, l'Europe devienne plus puissante. Et cela, sans qu'on perde beaucoup de choses, plus on en gagne.
Ouais, je pense que c'est un beau message de fin. Effectivement, on revient à ce « l'union fait la force » qui est un dicton très populaire, mais qui est réel, surtout quand on parle géopolitique. Ouais, c'est déjà la fin de cette première émission de l'Europe, Union et Désunion, que nous espérons que l'écoute aura été agréable et que l'Union européenne ainsi racontée devient tout à coup plus intéressante. Sans détour par des mots de vocabulaire compliqués, nous essayons d'être direct, concret et de rendre cette Europe vivante. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission et dans l'intervalle, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux ou à vos proches et surtout, soyez européens.